Festival de la francophonie de Victoria, fin de semaine du 27 et 28 mai au Centennial Square. Marché des artisans, zone familiale, aquaval, zumba. Venez rencontrer Marty la marmotte.
Bonjour à tous les francophones et francophiles de la grande région de Victoria. Merci de votre fidélité à la fréquence 107.9 FM. C'est Alexis Gagnon au micro. Bienvenue dans le débrief édition du 16 et du 17 mai. On va lancer tout de suite les revues de presse internationales, nationales et provinciales. Vous écoutez Le Débrief, mon nom est Alexis Gagnon. Voici votre revue de presse internationale pour le mardi 16 mai et le mercredi 17 mai. On revient sur la cyberattaque du virus WannaCry. Le média Courrier international s'interroge à savoir si c'est une attaque nord-coréenne. Pyongyang, la capitale nord-coréenne, est-elle à l'origine de la cyberattaque massive du week-end dernier, demande Courrier international. L'hypothèse est évoquée avec insistance par les analystes de plusieurs pays. Plusieurs analyses concordent sur la même hypothèse. La cyberattaque WannaCry serait le fait de la capitale nord-coréenne Pyongyang. Selon la firme russe Kaspersky, WannaCry a des morceaux de code informatique communs avec un programme malveillant utilisé par Lazarus, un groupe de pirates informatiques qui a perpétré l'attaque contre Sony Pictures Entertainment en 2014 après la diffusion du film The Interview qui mettait en scène l'assassinat du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Il y a 3 ans, Washington avait affirmé que l'attaque provenait du régime de Pyongyang et ce dernier avait alors agité la menace d'autres cyberattaques. On indique qu'en 2013, le groupe Lazarus avait perpétré des attaques contre 6 cibles sud-coréennes, dont des banques et des groupes médias. Et ce groupe aurait également réussi à extirper de l'argent à la Banque centrale du Bangladesh en 2016. On se transporte dans le fil de l'agence France Presse. À présent, Donald Trump accueille Erdogan à la Maison-Blanche. Le président des États-Unis, Donald Trump, a accueilli mardi à la Maison-Blanche son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, pour un premier tête-à-tête délicat sur fond de désaccord sur la question des milices kurdes syriennes. Erdogan a été reçu en personne à sa descente de voiture par Donald Trump, avec lequel il devait s'entretenir dans le bureau ovale avant une déclaration commune. Donald Trump a dit aux journalistes présents au début de l'entrevue qu'il s'attendait à avoir avec M. Erdogan une discussion longue et productive. L'objectif de la rencontre avait noté auparavant la Maison-Blanche est d'approfondir la coopération pour faire face au terrorisme sous toutes ses formes. Mais le calendrier de ce face-à-face est délicat, indique l'agence France-Presse. Il intervient une semaine après l'annonce par Washington de la livraison prochaine d'armes aux milices kurdes syriennes, YPG. Les États-Unis considèrent la coalition arabo-kurde des forces démocratiques syriennes, les FDS, dont les YPG sont le fer de lance, comme leur allié le plus efficace sur le terrain en Syrie contre les djihadistes. Le président turc Erdogan a pour sa part exhorté les États-Unis à revenir sans délai sur cette décision d'appuyer les milices kurdes. Aux États-Unis et cette fois dans le journal Le Monde, Hillary Clinton remonte en scène avec son organisation politique Onward Together. À l'instar de Barack Obama qui veut s'employer à aider la prochaine génération à reprendre le flambeau, la démocrate Hillary Clinton se positionne en mentor politique. La candidate malheureuse à l'élection présidentielle américaine de novembre 2016 a annoncé lundi 15 mai le lancement d'une organisation nommée Onward Together qui soutiendra l'engagement l'engagement politique et la résistance à l'action du président Donald Trump. Cet article du Monde ajoute qu'Hillary Clinton est en train d'écrire un livre sur sa défaite de 2016, un livre qui devrait paraître cet automne. Elle s'est exprimée plusieurs fois en public depuis novembre dernier, notamment avec force le 3 mai, ce mois-ci, quand elle a assuré qu'elle aurait été élue présidente sans l'intervention dans les derniers jours de la campagne électorale du directeur du FBI, James Comey, et sans le piratage informatique d'un de ses conseillers. En Europe maintenant, mais toujours dans les colonnes du journal Le Monde, avant le Brexit, le Royaume-Uni joue l'obstruction à Bruxelles. La négociation officielle du Brexit, le divorce entre le Royaume-Uni et le reste de l'Union européenne, n'a pas commencé, mais les 27 pays de l'Union européenne craignent déjà que Londres prenne systématiquement en otage les autres dossiers européens pour mieux négocier les conditions de sa sortie. Une première alerte a eu lieu fin avril quand les diplomates britanniques ont opposé leur veto à une étape de la révision du budget européen 2014-2020, alors en discussion à Bruxelles. En jeu, plus de 6 milliards d'euros de fonds destinés au renforcement du contrôle des frontières de l'Union et à l'aide aux pays d'origine des migrants. Pour justifier leur position, les diplomates britanniques ont invoqué la période avant les législatives du 8 juin en Grande-Bretagne, qui impose aux décideurs nationaux une certaine discrétion sur tous les sujets ne touchant pas aux affaires jugées essentielles. D'autres blocages de la part des représentants du Royaume-Uni pourraient être plus sérieux, ajoute Le Monde dans cet article. Ainsi, certains parlent de possibles menaces sur la coopération en matière de sécurité et notamment de lutte contre le terrorisme. Theresa May, la première ministre de Grande-Bretagne, les a évoqués fin avril dans sa lettre enclenchant le Brexit. Partenaire clé d'Europol, qui est l'office de coopération policière établi aux Pays-Bas, le Royaume-Uni compte bien user de cette position de force pour conclure un accord qui lui serait bénéfique. Et toujours à propos de l'Union européenne, cette fois dans le portail Reporter, un portail qui se consacre aux informations à thématique environnementale, le tribunal européen condamne le refus de la Commission d'accepter l'initiative des citoyens sur le CETA. Donc le CETA, c'est le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Je vous lis quelques lignes de cet article. Le tribunal de l'Union européenne vient d'annuler la décision de la Commission européenne de refuser l'enregistrement de l'initiative des citoyens européens Stop TTIP. La Commission avait refusé il y a 2 ans d'enregistrer cette initiative citoyenne demandant l'arrêt des négociations transatlantiques et c'est une initiative citoyenne qui demandait aussi de ne pas ratifier l'accord économique et commercial entre l'Union européenne et le Canada, le CETA. Cette initiative était pourtant signée par plus de 3 millions de citoyens en Europe. Les porteurs de l'initiative ont alors déposé un recours devant le tribunal de l'Union européenne pour obtenir l'annulation de la décision de la Commission européenne. Et le tribunal vient de leur donner raison il y a peu de temps. C'est un verdict qui a mis en évidence le fait que l'utilisation d'arguments d'ordre juridique était une violation des droits démocratiques des citoyens, a commenté l'eurodéputé écologiste Josep Maria Terry Cabras. Nous espérons que la Commission européenne respectera le jugement de la Cour pour faire de cette initiative un instrument de démocratie directe pleinement fonctionnel en Europe. On poursuit sur le sujet du CETA, ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, toujours sur le portail Reporter. Les parlements pourront discuter du CETA et en décider. Les traités commerciaux négociés par l'Union européenne doivent être approuvés par l'ensemble des parlements des États membres, a tranché mardi 16 mai la justice européenne. Cette décision est susceptible de ralentir considérablement la conclusion de tels accords, notamment celui avec le Royaume-Uni. Sont concernés, selon la Cour, tous les traités de libre-échange qui incluent un tribunal spécial pour trancher des litiges entre les investisseurs et les États. C'est-à-dire l'ensemble des accords bilatéraux négociés par l'UE depuis le traité de Lisbonne en 2009. Donc ça comprend le traité de libre-échange avec le Canada. On revient sur le continent américain. Un journaliste de renom assassiné au Mexique. C'est dans le portail Mediapart. Un journaliste mexicain de renom, spécialiste des cartels de la drogue, a été abattu lundi dans l'état du Sinaloa, dans le nord-ouest du Mexique. C'est le 5e journaliste tué cette année au Mexique, où les affrontements entre gangs et les attaques contre la presse sont en recrudescence. Javier Valdez, c'est le nom de ce journaliste, a été abattu par plusieurs agresseurs qui ont tiré sur sa voiture, selon le site d'information Rio Doce, un site qu'il avait contribué à fonder et auquel il continuait à participer. Valdez avait publié un livre sur les dangers rencontrés par les journalistes qui rendent compte de la criminalité et de la corruption au Mexique. Son décès a ébranlé la communauté des journalistes mexicains, déjà alarmée par la hausse des attaques contre la presse cette année. L'info se poursuit dans cette revue de presse internationale. Mediapart nous parle également de l'Iran, où se prépare une élection générale. L'élection présidentielle iranienne qui se tient vendredi 19 mai est la première depuis l'accord de Vienne sur le nucléaire. Le président sortant Hassan Rouhani avait gagné son mandat sur une amélioration de la situation économique qui ne s'est guère manifestée. C'est signé par le journaliste Thomas Cantaloub dans le portail Mediapart. Si toutes les élections présidentielles iraniennes sont importantes, celle qui se joue le vendredi 19 mai peut sembler un peu plus importante que les autres, écrit-il, et ce, sur le plan de l'économie, plus que de la politique. C'est en effet la première élection à se tenir depuis la conclusion de l'accord de Vienne de 2015 qui a sévèrement limité le programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions économiques sur le pays. Ce dernier point était crucial pour Téhéran car l'ensemble des sanctions imposées par l'ONU dans les années 2000 afin de punir le pays jugé coupable de vouloir développer l'arme nucléaire commençait à affaiblir sérieusement l'économie iranienne et le maintenait dans une position de paria international. Aujourd'hui, écrit Mediapart, Hassan Rouhani, que l'on peut ranger dans le clan des réformateurs, se présente devant les électeurs pour un second mandat, mais son bilan n'est pas aussi reluisant qu'il l'espérait pour se faire réélire. Car si les sanctions économiques ont bel et bien été levées en janvier 2016, comme promis par l'accord de Vienne, on reste très loin d'une normalisation des relations économiques et commerciales entre l'Iran et le reste du monde, en dépit des annonces sur l'achat d'avions Airbus ou Boeing, ou encore sur la reprise des activités sur place de Peugeot ou du géant Total. Quant aux Iraniens eux-mêmes, ils se plaignent du chômage qui est environ de 30% chez les jeunes, de la cherté de la vie et de l'absence de perspectives d'amélioration de leur niveau de vie. On continue dans cette revue de presse internationale. Reporter nous apprend que l'Algérie abandonne le gaz de schiste en faveur des énergies renouvelables. Le gouvernement algérien a pris la décision d'abandonner le gaz de schiste et de concentrer sa politique énergétique sur le développement des renouvelables en attendant l'accent sur l'efficacité énergétique. Le gouvernement algérien abandonne le gaz de schiste et donne sa priorité au développement des énergies renouvelables. Cela a été clairement indiqué par le ministre de l'Énergie en mars d'une conférence animée à la mi-avril à l'École des hautes études commerciales de Coléa, près de la capitale Alger. Une conférence qui portait sur le programme national des énergies renouvelables. Et on reste encore un petit peu sur le portail reporter.net. Climat, il n'y a pas que le CO2, il faut aussi penser à l'eau. C'est un article co-signé par Judith Schwartz et Daniel Hoffnung. S'éloigner des énergies fossiles est la solution communément admise pour lutter contre le changement climatique, écrivent-ils. Or, expliquent les auteurs de cette tribune, il existe d'autres facteurs climatiques que le volume de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ainsi, le rôle de l'eau est essentiel à travers les végétaux notamment. Alors c'est un long article, je vais vous en lire quelques lignes. Une fois que nous comprenons comment circule l'eau, écrivent-ils, et comment l'eau se combine avec des facteurs que nous pouvons influencer, tels que l'utilisation des terres et la couverture végétale, nous pouvons aider à restaurer le processus qui soutienne l'équilibre thermique et énergétique et donc maintenir notre climat. Par quels moyens, demande-t-il? L'évapotranspiration des plantes qui leur fait évaporer de l'eau tout en refroidissant l'environnement. Ainsi, selon le botaniste tchèque Jan Pokorny, un arbre de bonne taille représente 3 fois la puissance de climatisation d'une chambre d'un hôtel 5 étoiles. Pour Peter Andrews, agriculteur et auteur en Australie, les plantes gèrent l'eau et en gérant l'eau, elle gère la chaleur. Or, nous avons détruit la végétation sur un quart de la planète et supprimé la plupart de nos forêts naturelles. Il n'y a rien de magique ou de nouveau dans tout ceci, écrivent-ils. À travers l'histoire humaine, la modération climatique provient d'écosystèmes fonctionnels. Il est important de réaliser que nous pouvons restaurer les écosystèmes et retrouver la dynamique d'un équilibre de la chaleur et de l'eau. Plus de plantes signifie plus de photosynthèse, donc plus de carbone stocké dans le sol, où il ajoute la fertilité. Chaque augmentation de 1% du carbone organique dans le sol représente 250 000 litres d'eau en plus par hectare qui peuvent être absorbés par le sol. Plus l'eau est maintenue sur place, plus il y a de résilience aux inondations et à la sécheresse. Donc un article chaudement recommandé dans le portail reporter.net. Climat, il n'y a pas que le CO2, il faut aussi penser à l'eau. Et toujours dans le dossier du réchauffement climatique et de l'environnement, cette fois dans le portail du Monde, lemonde.fr, diesel, 38 000 décès dans le monde seraient dus en 2015 au dépassement des normes. Publié lundi 15 mai dans la revue scientifique Nature, ce document montre qu'un tiers des poids lourds et plus de la moitié des véhicules légers en circulation émettent beaucoup plus d'oxyde d'azote que ne le permettent les différentes limites réglementaires auxquelles ils sont théoriquement soumis. Et cet article rappelle qu'en 2015, quand le scandale Volkswagen avait éclaté, le constructeur allemand avait reconnu utiliser depuis 2008 des logiciels truqueurs qui abaissaient artificiellement les mesures des émissions d'oxyde d'azote. Et cela concernait 11 millions de véhicules Volkswagen sur le marché. Et c'est sur cette actualité que se referme la revue de presse internationale pour les 16 et 17 mai. Restez avec nous à l'antenne de votre radio communautaire francophone locale. L'émission Le Débrief se poursuit dans un instant avec la revue de presse nationale. Merci d'être à l'écoute de l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien pour les 16 et 17 mai. On change d'échelle pour s'intéresser aux nouvelles canadiennes. Votre revue de presse nationale débute tout de suite avec une nouvelle paraissant dans le fil de la presse canadienne. Femmes autochtones, l'enquête serait en difficulté. Des défenseurs de la cause autochtone, des dirigeants des Premières Nations et des familles ont écrit une lettre ouverte à la commissaire en chef de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Une lettre qui laisse entendre que le processus est en difficulté importante. Bien qu'ils reconnaissent le défi considérable auquel la commission fait face, le groupe auteur de la lettre soutient que des mesures doivent être prises immédiatement pour éviter les problèmes et assurer un virage majeur de l'approche actuelle. Le texte poursuit cet article de la presse canadienne, a été publié sur le site internet de l'artiste métisse Christy Belcourt, et ce texte souligne que ces gens sont profondément inquiets d'un manque continu de communication qui suscite anxiété, frustration, confusion et déception. L'enquête nationale, qui devrait coûter 53,8 millions de dollars et durer 2 ans, est dirigée par Marion Buller, la première juge issue des Premières Nations en Colombie-Britannique. Et Mme Buller est épaulée par 4 autres commissaires. Son mandat exige la présentation d'un rapport préliminaire en novembre cette année, mais de plus en plus de membres des familles et d'autres intervenants disent ne pas savoir exactement à quel moment ils pourront partager leurs témoignages. La commission doit tenir sa première audience publique le 29 mai à Whitehorse, mais les autres rencontres sont prévues au plus tôt l'automne prochain. Selon le communiqué d'une porte-parole diffusée la semaine dernière, aucune autre date n'a été confirmée et la commission n'a pas encore élaboré une base de données comprenant les noms des victimes. Il y a maintenant environ 294 familles qui ont contacté l'enquête nationale et qui ont signalé leur volonté de participer, a déclaré la directrice des communications Bernie Bolton. Il y a un vaste engagement de la communauté et un plan de communication pour se lier aux familles et aux survivants, a-t-elle ajouté. Les signataires de la lettre publiée lundi, poursuit cet article de la presse canadienne, soutiennent que l'échéancier fixé pour l'enquête est manifestement trop court et ajoute que les commissaires devraient demander dès maintenant une prolongation au gouvernement fédéral. La ministre des Affaires autochtones, Carolyn Bennett, est certaine que la Commission dispose des ressources et du temps appropriés pour faire son travail, a indiqué une porte-parole. Le journal La Presse nous apprend que Rona Ambrose dit au revoir à la vie politique. La chef intérimaire du Parti conservateur, Rona Ambrose, a commencé à faire ses adieux à la vie politique cette semaine. La députée albertaine qui dirige le parti depuis la défaite électorale de l'automne 2015 quittera son poste aux communes lorsque les députés seront en pause cet été. Les conservateurs choisiront un nouveau chef lors d'un congrès à Toronto le 27 mai, rappelle cet article de la presse canadienne. Rona Ambrose s'est adressée cette semaine à des députés et observateurs politiques à Ottawa pour un discours sur l'état du Parti conservateur, une prise de parole qu'elle a décrite comme étant son dernier discours public avant le début de sa nouvelle vie post-partisane. Rona Ambrose a notamment indiqué qu'elle souhaitait encourager les femmes à s'engager au sein du Parti conservateur et à se porter candidate. Nous nous sommes battus très fort et sans relâche pour le droit de vote, pour obtenir notre place dans les universités et le marché du travail, et pour le droit de présider à nos propres choix. Nous n'avons pas besoin de vieux hommes blancs pour nous dire quoi faire, a déclaré Rona Ambrose dans ce discours. L'ex-premier ministre Stephen Harper a salué sur Twitter et Facebook son ancienne collègue. On reste dans les colonnes du journal La Presse. Enseignants de français, entente entre les universités françaises et canadiennes. Un accord a été conclu mardi à Ottawa entre les universités françaises et canadiennes pour augmenter le nombre d'enseignants de français au Canada, tout en facilitant à plus d'étudiants canadiens d'aller poursuivre leur formation en France. Les responsables universitaires ont convenu de faciliter et d'encourager la venue au Canada d'étudiants ou diplômés français issus de programmes d'enseignement de français de langue étrangère, selon les trois signataires, à savoir la Conférence des présidents d'université, l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne et Université Canada. À l'issue d'une formation complémentaire dans une université canadienne, ces enseignants spécialisés pourront rejoindre les écoles primaires et secondaires de langue française dans les provinces et territoires canadiens. Cette initiative répond à la fois aux besoins croissants d'enseignants de langue française au Canada. Ont estimé les représentants des universités franco-canadiennes lors de la signature de l'accord à l'ambassade de France à Ottawa. Le Canada a prévu au cours des prochaines années de maintenir un flux migratoire important avec en moyenne 300 000 immigrés par an, dont la large majorité pour répondre à des besoins économiques. Dans le journal Le Devoir à présent, un projet de loi pour encadrer les droits des passagers aériens, c'est sous la plume de la correspondante parlementaire à Ottawa, Hélène Buzetti. Plus jamais un voyageur ne sera obligé de sortir d'un avion parce que son siège a été vendu deux fois par le transporteur. C'est ce qu'a promis mardi le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, en déposant un projet de loi qui instaurera des normes minimales de dédommagement des passagers aériens lésés. Mais il faut pour l'instant croire le ministre sur parole, car toute l'entreprise reste au conditionnel pour le moment, écrit Hélène Buzetti. On va se tourner vers le magazine L'Actualité sur le site l'actualité.com. C'est intitulé « Chicane de clôture », c'est sous la plume du journaliste Jean-Philippe Cipriani. À la veille des renégociations de l'ALENA, la méfiance règne entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Comment gagner au jeu des négociations, demande le journaliste. La clé, c'est l'anticipation, selon l'ancien premier ministre Pierre-Marc Johnson, qui est interviewé dans cet article. Pierre-Marc Johnson, un ancien premier ministre du Québec, croit que le gouvernement Trudeau a eu raison de se montrer rapidement ouvert à la renégociation exigée par l'administration Trump, écrit le journaliste de l'actualité. Devant l'intransigeance, il ne faut jamais se tasser dans un coin. Je connais des personnes dans l'équipe de négociations fédéraux qui sont à pied d'œuvre depuis l'élection de novembre, même avant. Il y a un degré de préparation très élevé, a confié Pierre-Marc Johnson aux journalistes de l'actualité. L'idée de rouvrir les négociations de l'ALENA, qui est entrée en vigueur il y a plus de 20 ans, n'est pas mauvaise en soi, selon Pierre-Marc Johnson. En 23 ans, les économies des trois pays ont changé et les enjeux de coopération réglementaire, de propriété intellectuelle et d'indication géographique se sont raffinés. Il faut voir plus loin que les questions du bois d'œuvre et de la gestion de l'offre. Le Canada pourrait, par exemple, tenter de réduire la portée des dispositions qui permettent aux entreprises de contester devant les tribunaux des lois ou des règles qui nuisent à leur commerce et de recevoir une compensation financière. Depuis l'entrée en vigueur de l'accord, la moitié des plaintes ont visé le Canada, qui a dû verser plus de 150 millions de dollars en dommages, sans compter les frais juridiques. Donc cet article qui s'appuie largement sur les propos de Pierre-Marc Johnson est publié dans l'actualité, je vous le disais, c'est sous la plume de Jean-Philippe Cipriani. Chicane de clôture, c'est le titre de cet article. On va rester sur le portail l'actualité.com qui nous propose un article sur le 375e anniversaire de Montréal. 375 bougies, 17 façons de célébrer, c'est le titre de cet article signé par Gary Lawrence. Difficile de s'y retrouver parmi la pléthore d'événements et d'activités proposés à Montréal dans le cadre du 375e anniversaire de sa fondation. Et c'est une proposition pour ceux qui seront à Montréal au cours de cette période de festivités, des différents événements et activités qui sont proposés dans le cadre des célébrations. Vous trouverez ça sur le portail l'actualité.com. 375 bougies, 17 façons de célébrer. Et cette année 2017 est aussi l'occasion de souligner le 50e anniversaire de l'Expo 67, nous rappelle l'hebdomadaire L'Actualité, avec un article qui s'intitule « Quand le Québec s'est déniaisé ». Point d'orgue de la Révolution tranquille, Expo 67 a été le grand accélérateur des transformations qui secouaient le Québec jusqu'à en modifier l'identité québécoise. C'est co-signé par Julie Barlow et Jean-Benoît Nadeau. Un article qui s'étend sur plusieurs paragraphes et qui refait l'histoire d'Expo 67 pour ceux qui veulent revisiter cet événement charnière de l'histoire du Québec, donc qui un événement qui a eu lieu exactement il y a 50 ans. Ici se conclut la revue de presse nationale pour les 16 et 17 mai. Le débrief vous revient dans quelques secondes avec votre nouvelle francophone du jour. À tout de suite. Et on se retrouve, comme c'est souvent notre habitude, dans le portail ONFFR sur le site tfo.org pour y trouver un article de Benjamin Vachet. C'est une interview que nous propose Benjamin Vachet avec Madeleine Meyer, la nouvelle commissaire aux langues officielles. Et le titre de cet article de Benjamin Vachet, « Madeleine Meyer, je veux être jugée sur mes actions ». Officiellement choisie par le gouvernement libéral de Justin Trudeau pour succéder à Graham Fraser comme commissaire aux langues officielles du Canada le lundi 15 mai, l'ancienne ministre libérale de l'Ontario, Madeleine Meyer, dit comprendre les réticences de l'opposition, mais demande à être jugée sur le travail qu'elle accomplira. Très heureuse de sa nomination comme 7e commissaire aux langues officielles du Canada, Mme Meyer ne peut toutefois nier que le choix de sa candidature ne fait pas l'unanimité à la Chambre des communes, écrit Benjamin Vachet. Le Parti conservateur du Canada et le Nouveau Parti démocratique ont tour à tour dénoncé la partisanerie de sa nomination, reprochant à Madeleine Meyer son long et très récent passé de ministre du gouvernement libéral de l'Ontario. « Je comprends les réserves », a-t-elle déclaré aux journalistes, « mais je ne suis pas la première politicienne à occuper un poste comme celui-là. Je vais m'acquitter de mes fonctions avec indépendance, intégrité et transparence et je veux être jugée sur mes actions. » Madeleine Meyer dit avoir reçu de nombreux messages d'encouragement depuis sa nomination et remarque que l'annonce a été plutôt bien accueillie par les francophones en milieu minoritaire à l'échelle du Canada. La franco-ontarienne d'adoption veut désormais se concentrer à laisser une marque à l'issue de son mandat. « Ce sont des grands souliers à chaussée », a-t-elle déclaré, « car Graham Fraser a accompli beaucoup de travail. Mais je pense qu'il y a encore des choses à faire. Je l'ai vécu quand j'ai quitté les affaires francophones en Ontario. On laisse toujours derrière soi des dossiers à compléter, comme pour moi avec l'Université franco-ontarienne et l'adhésion à l'Organisation internationale de la francophonie », a-t-elle déclaré. L'ancienne procureure générale compte s'appuyer sur son expérience de ministre et sur ses presque 13 années au poste de ministre délégué aux Affaires francophones pour remplir sa nouvelle fonction. « Je vais procéder de la même manière que lorsque j'arrivais dans un nouveau ministère », a-t-elle déclaré aux journalistes. « Je vais d'abord écouter, rencontrer le personnel qui connaît bien les dossiers et l'institution et parler avec nos partenaires francophones et anglophones en milieu minoritaire. » Puis, je vais utiliser les mêmes techniques qui m'ont permis d'améliorer les services pour les francophones en Ontario. Madeleine Meyer assure que même si elle privilégie la coopération avec le gouvernement fédéral, elle n'hésitera pas à aller au front si nécessaire. Ça fait partie du travail de commissaire et même quand j'étais ministre, j'ai dû parfois le faire contre des gens de mon propre parti qui n'étaient pas aussi sensibles à la cause des francophones, comme lorsque l'on a créé le poste de commissaire au service en français en Ontario. Je l'ai aussi fait comme conseillère municipale pour rallier assez de conseillers afin qu'ils appuient la politique sur le bilinguisme de la ville d'Ottawa, s'est-elle souvenue. Et un petit peu plus bas dans cet article, si elle ne tient pas encore à se prononcer sur d'éventuels pouvoirs accrus ou sur une révision de son futur poste, Madeleine Meyer a déjà plusieurs idées de dossiers sur lesquels elle veut travailler. Elle cite notamment le 150e anniversaire du Canada, où la dualité linguistique doit, selon elle, être bien présente, mais aussi l'accès à la justice dans les deux langues officielles et la question de l'immigration francophone. Il y a aussi le 50e anniversaire de la loi sur les langues officielles, rappelle-t-elle, un anniversaire qui arrive à grands pas. Il faut voir si on veut réviser cette loi, surtout avec l'arrivée d'Internet et des médias sociaux qui n'étaient pas encore présents lors de la dernière révision. Mais auparavant, poursuis-je Benjamin Vachet dans cet article, il reste encore quelques étapes à sa nomination, rappelle Madeleine Meyer. Et la première étape commence dès le jeudi 18 mai, date à laquelle elle devrait comparaître devant le Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes à Ottawa. Donc on va bien sûr vous informer à propos de cette comparution de Madeleine Meyer à la Chambre des communes. Je rappelle le titre de cet article, « Madeleine Meyer, je veux être jugée sur mes actions ». C'était votre information à thématique francophone pour les 16 et 17 mai dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien. Merci de demeurer à l'écoute de votre radio communautaire francophone locale.
Je pars sans regarder en arrière. Oh, 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 oh. Le monde est cause à effet, comme une histoire sans fin.
C'était la formation Mordicus avec une pièce intitulée Cause à effet. C'est Alexis Gagnon en votre compagnie à l'antenne du 107.9 FM. Vous écoutez le débrief, l'info se poursuit. C'est le moment de passer aux nouvelles de Colombie-Britannique. Et on commence tout de suite avec une nouvelle qui nous arrive de Vancouver. Les cétacés en captivité interdits à Vancouver. C'est dans plusieurs médias aujourd'hui. C'est issu du fil de la presse canadienne. Un règlement interdisant de garder des baleines, des dauphins et des marsouins en captivité a été approuvé par la commission de gestion des parcs de Vancouver. La commission a approuvé à 6 votes. Contre un, le nouveau règlement lors d'une assemblée lundi soir, alors que des centaines de manifestants s'étaient massés à l'extérieur pour partager bruyamment leur opposition. Le règlement entre en vigueur immédiatement, empêchant dorénavant l'aquarium de Vancouver d'accueillir de nouveaux cétacés à son établissement du parc Stanley. La commissaire Catherine Evans a déclaré que le règlement permettait à Vancouver de faire du rattrapage en matière de traitement éthique des animaux. Mais le président et directeur général de l'aquarium, John Nightingale, a déclaré par communiqué lundi soir que cette décision forcerait les intervenants en secours animal à euthanasier les bêtes ne pouvant pas être relâchées dans la nature. Une version précédente du règlement, précise la presse canadienne dans cet article, limitait quels cétacés l'aquarium pouvait acquérir. Seuls les animaux blessés ou ayant besoin de réadaptation et qui ne pouvaient ensuite être relâchés dans la nature étaient autorisés. Mais même ceux-là, dorénavant, ne seront plus accueillis par l'aquarium de Vancouver. Je vous rappelle le titre, « Les cétacés en captivité interdits à Vancouver ». C'est dans le fil de la presse canadienne. Et on va se déplacer un petit peu à l'est, mais en restant dans la sphère de l'Ouest canadien, une communauté autochtone albertaine vit une crise du fentanyl depuis 3 ans. Standoff en Alberta, une communauté d'à peine 7500 résidents qui compte des centaines de personnes dépendantes au fentanyl et aux opiacés. La réserve est parfois décrite comme un autre épicentre de la crise des opioïdes, avec l'épicentre de Vancouver, bien sûr. C'est un texte signé par Laurence Martin dans le portail de Radio-Canada. La police ne mâche pas ses mots quand elle décrit l'emprise du fentanyl sur la population de Standoff. Dans chaque maison, il y a probablement au moins une personne qui l'a déjà essayé. Ça ou un autre opioïde, affirme le sergent Matt Schmidt. Entre le début de l'année 2014 et octobre 2015, au plus fort de la crise, une trentaine de personnes sont mortes de surdoses liées au fentanyl dans cette communauté, selon les responsables. Un nombre extrêmement élevé pour une communauté d'à peine 7500 résidents. À bout de ressources, sans espoir de mettre fin à la dépendance ou de chasser les trafiquants, la réserve avait déclaré l'état d'urgence en mars 2015, un an avant que la Colombie-Britannique déclare son propre état d'urgence. Depuis, indique cet article de Radio-Canada, le nombre de morts liées au fentanyl a chuté. Des résidents réussissent à s'en sortir, mais l'emprise des opioïdes reste toutefois bien visible. Donc, vous trouverez cet article sur le portail de Radio-Canada. Une communauté autochtone albertaine vit une crise du fentanyl depuis 3 ans. Et à propos de fentanyl, toujours dans le portail de Radio-Canada, le dépistage du fentanyl dans les drogues pourrait réduire les risques de surdose. C'est un article qui paraît aujourd'hui dans le portail britanno-colombien de Radio-Canada. Les utilisateurs de drogues réduisent leur consommation lorsqu'ils découvrent que leur produit contient du fentanyl. C'est ce qu'a révélé un projet pilote pour tester les substances consommées à InSight, le centre d'injection supervisé de Vancouver. Cette étude a été menée par des chercheurs de la Régie de la Santé de Vancouver. Leurs conclusions ont été dévoilées lundi lors de l'ouverture de la 25e conférence internationale sur la réduction des méfaits à Montréal. Depuis 9 mois, des bandelettes sont utilisées pour détecter la présence de l'opioïde fentanyl dans les substances consommées à InSight. La Régie de la Santé de Vancouver révèle que plus de 1000 analyses de drogues ont été réalisées. Du fentanyl a été décelé dans environ 80% de l'héroïne et de la méthamphétamine en cristaux et 40% de la cocaïne consommée sur place. Ce que ce projet nous démontre, a déclaré le docteur Mark Lissichin, c'est que quand les gens reçoivent un résultat positif au fentanyl, ils sont plus motivés à réduire leur dose de drogue et cela réduit le risque de surdose. Donc une découverte encourageante à InSight, le dépistage du fentanyl dans les drogues pourrait réduire les risques de surdose. Et toujours dans le portail de Radio-Canada, l'expansion de l'univers enfin expliquée. Vous allez voir, il y a un lien avec la province de Colombie-Britannique. Des astrophysiciens de l'Université de la Colombie-Britannique, UBC, pensent avoir réussi à expliquer l'un des plus grands mystères de la nature. Qu'est-ce qui cause l'expansion de l'univers? C'est un texte d'Alain Labelle dans le portail de Radio-Canada. L'étudiant au doctorat Qingdi Wang et ses collègues s'attaquent à la question dans ses travaux qui tentent de résoudre le problème majeur d'incompatibilité entre les deux théories dominantes qui expliquent le fonctionnement de notre univers, la mécanique quantique et la théorie de la relativité générale d'Einstein. Ces résultats de UBC laissent à penser que si nous réalisons un gros plan de l'univers, nous constaterons qu'il est constitué d'un espace et d'un temps en constante fluctuation. L'espace-temps n'est pas aussi statique qu'il le paraît, il est en constant mouvement, observe le chercheur étudiant au doctorat Qingdi Wang dans cet article pour le professeur d'astrophysique Bill Unruh qui supervise les travaux de l'étudiant. C'est une théorie nouvelle dans un domaine où il n'y a pas beaucoup de nouvelles idées pour tenter d'expliquer ce problème. Vous trouverez cet article sur le portail de Radio-Canada, l'expansion de l'univers enfin expliquée, et c'est à propos de travaux qui sont faits à UBC. Le journal La Presse nous apprend qu'il y aura un artiste britanno-colombien à Vienne lors de la Biennale d'art. Il s'agit de Jeremy Shaw. C'est un article signé par Éric Clément. Trois Canadiens en tout ont été invités à Venise pour la Biennale. Originaire de Vancouver et lauréat du prix Sobey en 2016, Jeremy Shaw, qui travaille à Berlin maintenant, expose dans le pavillon dionysiaque consacré à la féminité et à la sensualité. Donc vous trouvez cet article qui fait le portrait des artistes canadiens présents à la Biennale de Venise cette année. C'est sous la plume d'Éric Clément dans La Presse. Et retour sur le portail britanno-colombien de Radio-Canada, Vancouver souhaite contrôler l'accès à False Creek. Le conseil municipal de Vancouver votera sur une motion qui donnera à la ville de Vancouver une plus grande marge de manœuvre dans le contrôle de l'accès à False Creek. Les règlements actuels empêchent Vancouver de restreindre l'accès à la voie navigable qui mène au centre-ville, car cet itinéraire est sous l'autorité de la loi sur la marine marchande du Canada. L'objectif, c'est de permettre à la ville d'obtenir plus de flexibilité dans sa gestion de False Creek, qui fait partie de son territoire, peut-on lire dans la motion présentée au conseil municipal. On parle d'immersion française à présent. Un communiqué émis par Canadian Parents for French nous avise que la commission scolaire de Vancouver a renoncé à un quart de son financement pour l'immersion en milieu maternel. En dépit d'une grande demande et de longues listes d'attentes, la commission scolaire de Vancouver a effectuer des coupes dans ses classes d'immersion en français au niveau de la maternelle. C'est ce que nous apprend un communiqué émis par Canadian Parents for French. Alors, en renonçant à cet espace, la commission scolaire de Vancouver va perdre une partie de son financement fédéral. Et sur le site de CBC, on explique que cette décision de la commission scolaire a pour origine une décision de la Cour suprême du Canada qui avait obligé la province à réduire la taille des classes en Colombie-Britannique. Et donc, en réduisant la taille des classes, le nombre d'élèves par classe, on réduit aussi le nombre de salles disponibles. Et confronté à ce problème, la commission scolaire de Vancouver a préféré réduire le nombre de classes d'immersion plutôt que de trouver de nouveaux locaux. Alors voilà, c'est un problème que déplore bien sûr Parents for French. Je vous encourage à lire le communiqué qu'ils ont émis à ce sujet ou à consulter la nouvelle qui paraît sur le portail de CBC à ce sujet. Et du côté de notre portail indépendant de Taï, un portail qui est ici basé sur l'île de Vancouver. If liberals and greens ally, it will be about power and ego. ces BC activists. Alors, dans l'éventualité d'une alliance entre le Parti libéral de Colombie-Britannique et les Verts d'Andrew Weaver, la gouvernance serait fondée sur le pouvoir et l'ego, selon des activistes qui se sont fait entendre cette semaine et qui ont confié leurs impressions au journaliste Doug Ward. C'est dans le Taillis. Lindsay Pope, c'est l'une de ces activistes écologistes qui s'oppose à une alliance entre les Verts et le Parti libéral de Christy Clark. Elle est interviewée dans cet article. Elle rappelle que les Britanno-Colombiens ont voté pour le changement et non pour la poursuite d'un gouvernement libéral. Et elle rappelle bien sûr que les libéraux sont opposés à plusieurs des mesures environnementales qui figurent dans le programme du Parti vert de Colombie-Britannique. Et dans ce même ordre d'idées, un autre article paraissant sur le portail de Taillis, Time for a Red-Green Alliance to Oust Clark. C'est sous la plume de Bill Tilleman dans le Taillis. Et le journaliste rappelle dans cet article que les Verts ont beaucoup plus de points communs et d'affinités avec le Parti néo-démocrate de Colombie-Britannique qu'avec les libéraux de Christy Clark. Il rappelle que les néo-démocrates et les Verts s'entendent sur plusieurs points, notamment sur la nécessité de mettre fin au financement corporatif et des syndicats. Financement illimité, rappelons-le, qui est possible en Colombie-Britannique, un système très peu encadré. Ce journaliste rappelle aussi que les deux partis, donc le Parti néo-démocrate et le Parti vert, sont en faveur du scrutin proportionnel en Colombie-Britannique, au contraire des libéraux de Christy Clark. Le journaliste rappelle que les deux partis, donc le Parti néo-démocrate et le Parti vert, sont en faveur de l'accès au logement. Que les deux partis s'opposent à la hausse des tarifs d'hydroélectricité et à la construction du site C, le projet pharaonique dans le nord-est de la province. Le journaliste rappelle aussi que les deux partis sont en faveur d'un accès plus grand à la santé, aux services de santé et à des subventions pour le transport en commun à l'échelle de la province. Donc, vous trouverez cet article dans le portail de Taillis. Time for a Red-Green Alliance to Oust Clark. C'est sous la plume de Bill Tilleman. C'est avec cet article paraissant dans le Taillis qu'on boucle le tour d'horizon des nouvelles provinciales. Mon nom est Alexis Gagnon. Vous écoutez toujours Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. On fait une courte pause et au retour, on s'intéresse à la météo des prochains jours. Restez à l'écoute. Vous écoutez l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9, votre radio communautaire francophone dans toute la grande région de Victoria. C'est Alexis Gagnon au micro. Merci d'être avec nous. On va jeter un petit coup d'œil à la météo des prochains jours. On a eu une belle journée. On a eu droit à du soleil aujourd'hui 16 mai et ça se poursuit demain mercredi 17 mai. Pour le moment, pour ceux qui nous écoutent en fin d'après-midi du 16 mai, on a environ 10 degrés à l'aéroport de Victoria. Ça demeure dégagé avec quelques nuages seulement en soirée, un maximum de 7 degrés en cours de nuit. Et demain, on se réveille avec des passages nuageux, mais principalement du soleil, un maximum de 15 degrés. Et ce sera frais en soirée demain, mercredi. Le mercure descendra environ 7 degrés. Jeudi 18 mai, vendredi 19 mai et samedi 20 mai, c'est du soleil que nous prédit Environnement Canada. Et même dimanche 21 mai, alors que le mercure devrait atteindre environ 21 degrés. Donc, le temps maussade des derniers jours est bien derrière nous. On a une séquence de soleil qui s'annonce. Quelques passages nuageux, bien sûr, pour demain surtout. Et ensuite, un peu plus légèrement dans les jours qui vont suivre. Et les maximums oscilleront entre 15 et 20. Donc voilà de bonnes nouvelles. C'est Alexis Gagnon au micro. On va se laisser en musique avec une pièce de Jay Lafon intitulée « Compte pas sur moi ». Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9. On se retrouve dans le débrief demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
passera la nuit à te demander, demander pourquoi t'as toujours été la seule à y penser, y penser. Non, y'a pas de mauvaise ou de bonne réponse. On ne peut connaître le meilleur du monde. On ne peut s'étendre sur des kilomètres. Une dernière chance, jurée sur ma tête. Compose sur moi, compose sur moi. Depuis le temps, tu devrais t'en rappeler. Compose sur moi. Depuis le temps, tu devrais t'en rappeler. Désolé, non, j'ai pas de réponse pour toi. Surtout ne compte, compte sur moi. Désolé, non, j'ai pas de réponse pour toi. Surtout ne compte, compte sur moi. Compte sur moi, compte sur moi.
Bonjour, je suis Andy, votre capitaine sur le traversier vers Vancouver, et j'écoute CILS-FM.
La mer qu'on voit danser le long... Avec l'espoir au bout des lèvres qui diront la vie. Et si on retombe, et si on s'oublie, prendra pas la prochaine sortie. Et si le ciel gronde, l'horizon s'assombrit, autant aimer la pluie. À ta santé, à la joie. Au moins jusqu'à la prochaine fois. À ta santé, à la joie. Au moins jusqu'à la prochaine fois. Balayer, balayer,
tous les je t'aime tomber sur le plancher. Emporter, emporter les vieux regrets que l'on traîne qu'enfin notre santé. Et si on retombe, et si on s'oublie, on prendra pas la prochaine sortie. Et si le ciel tremble, l'horizon s'assombrit, autant aimer la pluie. À ta santé, à ta joie. Au moins jusqu'à la prochaine fois.
Prends ton soupir, mon amour, puis reviens au port. J'ai une place dans mes bras pour toi ce soir. Ma tempête d'été, ma tempête d'hiver, envoie-moi tout ce que t'as, je m'en vais te laisser faire. Tes pluies glaçantes, pis tes bandes de bise, j'suis faite pour toi, quoi c'est que tu veux que j'te dise? Tes tournades de haine, pis tes airs bizarres, j't'adore ma belle, j'm'en vais rester fort. Prends ton soupir, mon amour, pis reviens au port. J'ai une place dans mes bras pour toi ce soir. Si tu t'écartes dans les orages, pis tu perds mon nord, viens ton vers ma lumière emportée de mon fort. Ma tempête d'été, ma tempête d'hiver, je te vois venir de loin, je peux te sentir dans l'air. Tes éclairs de rage, puis ton tonnerre violent, à travers des nuages, je suis ton étoile brillante. Prends ton soupir, mon amour, puis reviens au port. J'ai une place dans mes bras pour toi ce soir. Si tu t'écartes dans les orages, puis tu perds mon or, viens ton verre, ma lumière emportée de mon fort. Ma tempête d'hiver, essuie tes gouttes de pluie avant que ça tourne en grêle. Mais si la tempête vient, pense-y pas trop fort. Tes cristaux de glace vont fondre sur mon corps. Prends ton soupir, mon amour, puis reviens au port. J'ai une place dans mes bras pour toi ce soir. Si tu t'écartes dans les orages, puis tu perds ton or, viens ton verre, ma lumière emportée de mon fort. Prends ton soupir, mon amour, puis reviens au port. J'ai une place dans mes bras pour toi ce soir. Si tu t'écartes dans les orages, puis tu perds ton or, viens ton verre, ma lumière emportée de mon fort.
On ne choisit pas toujours la route, ni même le moment du départ. On n'efface pas toujours le doute, la vieille peur d'être en retard. Est si fragile. On ne choisit jamais de vieillir. On voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir. On meurt souvent, bien entendu. Car la vie est si fragile, est si fragile, est si fragile, est si fragile. On est seulement ce que l'on peut. Que l'on croit, ah, et si tôt on se pense un dieu.